chers auditeurs. Au micro, Paul Uzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix sur l'antenne de Radio Shalom. En général, l'opinion publique estime que la reprise des négociations de paix entre Israël et les Palestiniens n'est plus à l'ordre du jour. Une partie d'entre elles parce qu'elle ne l'a jamais voulu, une autre partie parce qu'elle n'y croit plus. Il y a aussi ceux qui considèrent que les accords d'Abraham repoussent au calende grec la reconnaissance mutuelle et souveraine des deux peuples et que la situation actuelle issue des accords d'Oslo signés entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat en 1995, cette situation se suffirait à elle-même. Pourtant, sur le terrain, des femmes et des hommes, des deux côtés du mur, continuent de se rencontrer et de vouloir préparer leur émancipation, autant celle du dominé que celle du dominant. Ces militants ne veulent pas désespérer et abandonner le terrain aux extrémistes et aux indifférents. Surtout, ils ne veulent plus de la violence et de la guerre. Comme le roi Salomon, ils essaient d'avoir un cœur intelligent. Yuval Rahamim fait partie de ces militants. Depuis 2016, il est le directeur du Forum des organisations non gouvernementales israéliennes et israélo-palestiniennes pour la paix. Il a été également président de l'Association des familles endeuillées, qui regroupe des proches des victimes du conflit israélo-palestinien dans les deux camps. Nous allons lui demander de nous raconter leurs espoirs et leurs difficultés. Yuval, vous êtes là ?
Allô, oui, allô. Je vous entends, Paul.
Ok, oui. très bien. Ouais, alors, Yuval Rahamim, le 7 juillet dernier, vous étiez à Paris et vous avez participé à une réunion organisée par les Guerrières de la Paix. Quel était l'objectif de cette réunion et de quoi avez-vous parlé ?
Merci de m'avoir, Paul. Oui, c'est vrai, on était la semaine dernière à Paris et on voulait surtout parler de ce qui se passe sur le terrain en Palestine et en Israël, au niveau de société civile qui fait tout ce qu'on peut pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors ça, je pense que ça n'arrive pas souvent à la publique française, juif et arabe et pareil. Donc cette initiative était pour vraiment montrer aux Français qui, des fois, ils déclenchent des discussions entre les Arabes et Juifs sur ce sujet, qu'ici, en Israël et en Palestine, on travaille ensemble, des Palestiniens et des Israéliens, pour faire la réconciliation entre les deux peuples et pour pousser notre leader à relancer, recommencer les négociations pour avoir un accord de paix.
D'accord. Yuval Rahamim, vous dirigez une organisation non gouvernementale israélo-palestinienne qui est intitulée Les Familles Endeuillées. Pouvez-vous nous dire rapidement de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous faites et qui y participe ?
Cette organisation existe depuis très longtemps, de plus de 20 ans. Il était construit par des familles endeuillées de deux côtés israéliens au début et ensuite, il y avait aussi des familles palestiniennes, quelques centaines de familles qui ont perdu un membre de la famille qui est très proche à cause du conflit.
D'accord.
Mais au lieu de tourner à la revanche, à la vengeance, à la haine, on a décidé que notre perte doit être la dernière. Et qu'il faut aller chercher des solutions pour arrêter ce cycle perpétuel de morts et pour garantir un avenir pour nos enfants qui ne sera pas des victimes.
D'accord. Je crois que vous-même, votre père est mort pendant la guerre des six jours.
Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 8 ans. À l'année 67. Mmh. Et au début, bien sûr, en tant qu'un enfant et adolescent, je cherchais rien que la vengeance aux Arabes. Mais je comprends maintenant que la plupart des Palestiniens et Israéliens souvent on est coincé dans ce même sentiment. Et il faut changer ça. C'est pour ça qu'on va ensemble, Israéliens et Palestiniens, aux classes, au lycée, partout en Palestine et en Israël, pour parler de notre transformation de victime au vainqueur ou au chercheur de la paix.
D'accord. Dites-moi, Yuval, je crois qu'il existe d'autres ONG, organismes non gouvernementaux israélo-palestiniens, qui ressemblent un peu aux vôtres. Est-ce qu'il y en a beaucoup en Israël et en Palestine?
En Israël, il y en a beaucoup. Il y a plus de 150 organisations. La plupart d'entre eux sont israéliens, mais il y en a, comme nous, des organisations qui sont binationaux, comme Combattants pour la paix et d'autres, qui travaillent ensemble, palestiniens et israéliens, pour travailler dans les deux sociétés et leur montrer que la paix est possible entre nous et qu'on peut finir, on peut terminer ce conflit avec tout ce qu'il faut, c'est de la volonté et la patience et de créer des et la création de confiance entre les deux peuples.
D'accord. Je crois que quand vous étiez à Paris pendant la réunion là, il y avait Navar Hefetz aussi qui fait partie d'une organisation non gouvernementale de rabbins pour la paix, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça. C'est une organisation israélienne qui est construite de rabbins, bien sûr, progressifs la plupart, et qui trouve dans la Bible, dans la Torah, des valeurs qui sont pour la paix, pour la existence en paix entre le peuple israélien et le peuple autour, les Arabes. Et eux, ils travaillent sur le terrain pour protéger les droits de l'homme de tout ce qui vit sur cette terre sacrée.
D'accord. Alors, Yuval Hamim, est-ce que ces ONG mixtes, on va appeler ça mixtes parce qu'il y a des Arabes, des Juifs, des Palestiniens, des Israéliens, comment elles sont perçues par les administrations de l'État hébreu et Israël et de l'autorité palestinienne? Comment elles sont perçues? Est-ce qu'on vous les aide? Est-ce qu'on vous aide pas? Est-ce qu'on vous décourage? Est-ce qu'on vous tape dessus?
Ben, ça dépend. Enfin, vous savez, le gouvernement israélien a changé il y a un an. Maintenant, ça va réchanger, on ne sait pas encore à quoi. Et les régimes anciens, les régimes de droite, n'étaient pas en faveur de ce qu'on fait. Donc, il y avait des régulations, des lois qui ont essayé de nous limiter. Bien sûr que nous, on travaille uniquement selon la loi, donc on respecte la loi. Et comme c'est un pays démocratique, on n'a pas... Il n'y a pas un moyen vraiment légal pour nous empêcher de ce qu'on fait, parce que encore, ce sont des sociétés civiles, on a le droit de faire tout ce qu'on peut. Et il y avait dans le gouvernement qui était formé il y a un an, et il y avait un sentiment plus favorable de ce qu'on fait, donc on était un peu, on n'était même pas limité, mais même un peu supporté par ce gouvernement.
Il était plus favorable à votre action.
Oui, oui. Donc, c'était une année assez bien pour nous. Et en Palestine, c'est pareil. Le gouvernement n'empêche pas les organisations à travailler. Mais là, le sentiment public n'est pas aussi favorable. Donc, il y a des mouvements d'anti-normalisation qui mettent en place des limitations plutôt sociales contre toutes sortes de collaborations entre Palestiniens et Israéliens. Donc, ça met un peu des limites, mais encore, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Et on fait des conférences de deux côtés, en Israël et en Palestine. Normalement, ce qui est important pour nous, c'est plutôt le sentiment ou la participation du public. On ne cherche pas que le gouvernement nous aide. Notre but final ou ultime, c'est que finalement, le pouvoir public, notre impact sur le public sera assez important, que le gouvernement sera obligé de le prendre en compte et de commencer à faire ce qu'on veut vraiment tous.
Des négociations.
après les négociations, voilà, et que ces négociations va terminer avec une signature de l'accord de paix.
D'accord. Alors, vous en avez parlé un petit peu, mais approfondissons. Est-ce que la société palestinienne et est-ce que la société israélienne, je ne parle pas des autorités là, je ne parle pas des officiels, mais est-ce qu'elles vous sont favorables? Est-ce qu'en Israël, on vous regarde favorablement? Est-ce qu'en Palestine, quand vous venez, vous êtes bien accueillis? Voilà, si vous faites un colloque à Ramallah, à Jenin ou à Hebron ou à je ne sais pas où, est-ce qu'on vous dit « welcome »
Ouais, bon, ça dépend. Vous savez bien que les deux sociétés sont vraiment, le spectrum est très grand et il y a des ruptures, il y a des écarts dans la société israélienne et aussi dans la société palestinienne. Donc, en Israël, il y en a beaucoup qui nous accueillent chaleureusement dans leurs maisons, dans leurs institutions, dans les écoles. Et il y en a qui essayent tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher de travailler. Quoi.
Bien sûr.
C'est normal. Il y a l'extrême droite, il y a la gauche, il y a le centre. Normalement, quand on est des familles endeuillées, on a déjà un certain niveau de respect dans la société. Mm-hmm. En Palestine, c'est pareil. Il y en a qui nous accueillent chaleureusement. Et on n'est jamais... On ne jette jamais de pierres sur nous. Hein. On profite toujours de la même situation des familles endeuillées qui ont respecté des deux côtés, donc des personnes qui ont perdu quelqu'un.
C'est un peu sacré, c'est un peu kadosh, c'est un peu sacré.
Voilà. Alors ça nous permet d'aller dans des zones droites en Palestine, même qu'en Israël. C'est vrai qu'en Palestine, c'est un peu plus délicat, donc il faut faire attention où on va pas partout, et on essaye de faire au fur et à mesure. Donc avant, il n'y a que notre camarade palestinien qui vont expliquer ce qu'on fait, et puis après on nous invite, les Israéliens aussi, à aller de la même endroit, donc là on est très très bien accueillis.
D'accord. Je vais vous poser une question, justement, puisqu'on parle de ça. Est-ce que vous êtes gêné par le mouvement anti-israélien BDS? Alors, je rappelle pour nos auditeurs que BDS, ça veut dire boycott Israël, désinvestir en Israël et sanctions contre Israël. Est-ce que ce mouvement est puissant dans les territoires palestiniens? Est-ce qu'il vous embête, qu'il vous empêche de vous réunir, ou est-ce qu'il vous laisse tranquille?
Ben, comme j'ai dit avant, ce qui nous embête plutôt, c'est le mouvement anti-normalisation, mm-hmm. qui n'est pas le BDS, mais c'est un mouvement qui c'est vrai qu'il boycotte toute coopération avec des Israéliens, même s'ils ont des combattants de paix, même s'ils ont des activistes. Okay? Mais par contre, une fois qu'on nous connaît et qu'on comprend notre histoire, on est pratiquement permis partout.
D'accord.
Donc, mais les BDS, moi, je n'y crois pas. Je pense que la boycott, ça ne sert à rien, finalement.
D'accord. Donc, ce n'est pas eux qui vous gênent. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez des contacts avec des gens à Gaza?
On avait des contacts avant que Israël a quitté la bande de Gaza. Et
il y a un bout de temps,
Depuis que le Hamas est en pouvoir sur la bande de Gaza, les conditions ici, les conditions là-bas des droits de l'homme et de la liberté de conversation est très, très limitée. Donc, nos partenaires, nos camarades qui résident dans la bande de Gaza, c'est devenu très, très difficile de maintenir le contact.
D'accord. Donc, c'est essentiellement en Cisjordanie. En Judée et Samarie, comme ils disent. Voilà.
Oui.
Voilà. Alors, question qui a fait polémique à une époque, Yuval Rahamim, et par qui et comment vos activités sont financées?
Pourquoi la polémique? C'est assez clair partout, donc on l'affiche.
Oui, c'est un peu passé, mais il y a un moment, il y a eu avec les ONG
Il y avait eu des histoires avec le gouvernement israélien, les Palestiniens, l'Europe, tout ça.
Alors ça, encore, ça a relié à la question que vous m'avez demandé il y a quelques minutes, oui, sur le soutien des gouvernements ou sur les obstacles que le gouvernement fait. Alors le gouvernement de droit, ils ont essayé de mettre des obstacles, mais normalement, on est financé par des fondations, soit privées, mm-hmm, soit gouvernementales, des États ou l'Union européenne ou les États-Unis qui ont des fondations assez importantes pour supporter la paix au monde. Donc, on nous donne de l'argent pour faire des projets entre les deux peuples. Et il y a beaucoup de financements qui arrivent de personnes privées partout dans le monde et en Israël aussi. Donc, notre ressource est très, très variée et très transparente. Donc, on peut tout voir dans notre site Internet où qui sont notre ressources de financement.
D'accord. Alors, je vous pose une dernière question parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, hein, en 2-3 minutes comme ça. Est-ce que vous pensez que la solution deux peuples pour deux États, c'est encore la solution pour vous militants de la paix en Israël qui travaillez depuis longtemps? Est-ce que vous êtes pas un peu...
La nature des solutions politiques ou des solutions diplomatiques est pas clair pour personne maintenant parce qu'il n'y a pas de négociations, il n'y a rien sur la table, il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas de négociations. Donc, cette question est maintenant dans la vide. Je ne suis pas un prophète de dire quelle solution va marcher parce qu'il n'y a rien sur la table.
D'accord.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de mouvement pour une solution, la méconfiance est tellement grand, mm-hmm, la méconfiance entre les gouvernements.
Ouais.
Il n'y a pas de confiance. Quand il y a de confiance, on peut créer des solutions. Comme il n'y a pas de
confiance, solution.
Donc c'est pas la peine de parler de solution parce qu'il n'y a personne qui va signer cette solution. Donc la première étape, c'est de créer un espoir et de la confiance entre les deux côtés pour qu'ils s'assoient à négocier. Et c'est pas important quelle sera la solution, si c'est un, d'accord, état, deux états, trois états.
D'accord.
Une fois qu'on crée
confiance, retrouver la confiance et reprendre les négociations.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission Yuval Rahamim et puis d'avoir répondu à nos questions. C'était très bien, un bon français, parfait. Colacabode. Bon alors, bonne semaine à tous et à toutes. C'était Paul Ouzimé hier soir à l'antenne avec Chronique pour la paix. À dans 15 jours.